Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteur, compositeur, interprète, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Il arrive parfois à certaines personnes de connaître un blocage partiel ou total de l'intestin. C'est ce que le spécialiste appelle une occlusion intestinale. Celle-ci empêche le transit normal de matière fécale et des gaz. Alors on va découvrir avec notre invité quelles sont les causes d'une occlusion intestinale et puis comment on soigne cette maladie. Je le dis et je le répète, nous avons dans ce studio le docteur Antoine Chimpi qui est gastro-entérologue. Je rappelle aussi le numéro des contacts. Si vous venez de nous joindre à nous par rapport à cette maladie, vous êtes intéressé et vous voulez poser des questions, appelez au 081-890-63-94. Alors, docteur Antoine Chimpi, expliquez-nous un peu davantage l'occlusion intestinale. C'est quoi cette maladie?
Merci Marcel, bonjour à nos auditeurs, hein. On commence à avoir l'habitude. juste un petit rappel de l'anatomie pour rendre les choses simples, oui. Mais vraiment simples. Imaginons les intestins, en fait, de la bouche à l'anus, chez tout le monde. C'est un tuyau qui va de haut en bas, qui fait environ 15 mètres chez l'adulte et environ 10-12 mètres chez l'enfant. Donc, imaginez donc ces tuyaux en plastique qui fait des vagues, qui fait des contractions, ce qu'on appelle nous des péristaltismes, de haut en bas, qui permet donc de faire progresser les aliments, tout ce que nous buvons. Je vais même exagérer, même de l'air que nous respirons, il y a une partie qui rentre dans le tube digestif. Il faut que ça aille de haut en bas. Ça ne peut pas faire ce qu'on appelle sens interdit, contresens en haut. On va faire un reflux, on va faire quelque chose d'anormal. Ces tuyaux donc, c'est un tuyau un peu en plastique, comme une plomberie, mais souple. Et donc, si le cheminement s'est fait normalement, le transit est normal. C'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, mais il arrive que ces cheminements, pour une raison ou une autre, s'effacent mal. Et donc de trois façons. Lorsqu'on a compris le fonctionnement que j'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez avoir une première cause qui est donc le ralentissement des contractions, des vagues, comme vagues sur une mer, hein, les vagues de contractions des péristaltismes de haut en bas, et jusqu'à un moment, ça peut même s'arrêter complètement. Et donc, on va voir ce qu'on appelle, nous, en langage un peu technique, un ileus paralytique, c'est-à-dire une occlusion, sans obstacle, sans obstruction, vous avez compris, c'est simplement les contractions qui se sont arrêter. Et ça, on peut les avoir dans certaines maladies un peu particulières comme le Parkinson, une maladie qu'on appelle la sclérodermie, c'est un peu compliqué. Ou alors, pour certains médicaments, comme les antidépresseurs de neuroleptiques, ils peuvent ralentir ce fonctionnement de l'intestin, occasionner une occlusion sans obstacle. C'est très peu fréquent, c'est pour ça que je voulais en parler d'emblée, mais le plus fréquent, imaginez toujours ces tuyaux en plastique de haut en bas, imaginez que vous le comprimiez par l'extérieur, vous allez les stranguler, vous allez faire une compression, mais vous allez bloquer le passage des aliments de liquide de haut vers le bas parce que vous avez fait un obstacle. Ça, c'est ce qu'on appelle exactement une occlusion. Nous verrons les causes. Mais et le troisième point, la troisième cause, c'est que de l'intérieur, imaginez toujours ces tuyaux en plastique qui va de haut en bas, qu'on ne comprime pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous avez par exemple un bouchon qui se forme. Imaginons que la matière devienne un peu dure, comme un bouchon, ça va obstruer l'intestin par l'intérieur, ce qu'on appelle les obstructions mécaniques. Mais dans les trois cas, nous avons parlé d'occlusion, et dans les trois cas, vous avez vu, les causes sont différentes, donc les traitements vont être en fonction de la cause.
Voilà, alors dites-nous docteur, puisqu'on parle de l'intestin, c'est qu'il y a le gros intestin, et puis le petit, alors ça concerne le deux intestins.
Exactement, donc je reviens toujours au schéma, c'est pour faire simple, de la bouche à l'anus, oui. En haut nous avons l'œsophage, et puis il suit une poche qu'on appelle l'estomac, et en dessous de l'estomac, il y a le petit intestin, qu'on a donc l'intestin grêle, oui. Qui va faire environ 8 mètres chez tout le monde, et ces 8 mètres, imaginez dans votre ventre, il y a un tuyau qui fait 8 mètres, donc il n'est pas rectiligne, il n'est pas droit ces tuyaux, il est donc enroulé sur lui-même, il fait des zigzags, il fait plusieurs S, c'est-à-dire imaginez plusieurs serpents, ils vont s'enrouler sur eux-mêmes, ça c'est l'intestin grêle qui est de petit calibre mais qui est long. C'est pour ça qu'on l'appelle petit intestin. Puis il va suivre le côlon, qui est donc le gros intestin, et il se rencontre exactement au niveau du bas-ventre à droite, à l'endroit exactement où il y a l'appendice. C'est là qu'il y a la jonction entre le petit intestin, l'intestin grêle, et le gros, qu'on appelle le côlon, qui lui fait environ 1,50 m jusque vers l'anus. Voilà, donc les occlusions peuvent se faire au niveau plus fréquemment, au niveau de l'intestin grêle, le petit intestin, parce que comme il est enroulé sur lui-même, parfois il peut capoter sur lui-même, ce qu'on appelle un volvulus. Il peut être beaucoup plus facilement bloqué parce qu'on a été opéré, on parlera des causes tout à l'heure, de l'extérieur. Comme il a un petit calibre, il se bloque plus facilement, alors que le gros intestin, gros, c'est-à-dire il a un calibre un peu plus gros, il a un diamètre qui fait envie un peu plus gros en tout cas, de l'ordre d'une dizaine de centimètres, il se bloque moins souvent. Il faut quelque chose de plus gros pour le bloquer.
Alors, allons-y, parlons maintenant du cause. Qu'est-ce qui peut être à la base d'une occlusion intestinale?
Voilà. Alors, les occlusions intestinales, j'ai dit tout à l'heure, les lésions paresseuses qui sont provoquées par des médicaments ou certaines infections sont beaucoup moins fréquentes, heureusement. Mais vous avez essentiellement des occlusions du grêle, du petit intestin qui sont beaucoup plus fréquentes. Et dans les causes les plus fréquentes, on a ce qu'on appelle nous les brides ou les adhérences, c'est-à-dire toute opération qu'on ait eu au niveau du ventre pour une appendicite, pour une infection au niveau gynécologique, une opération pour la vésicule biliaire, on en a parlé, de l'estomac, tout ce qui est dans le ventre. Si vous vous souvenez bien, il y a quelque temps, on avait parlé dans le ventre, il y a les intestins, ils sont recouverts d'une membrane qu'on appelait le péritoine. Donc une fois qu'on a opéré tel ou tel organe dans cette cavité, toute opération va entraîner une cicatrisation. Et dans la cicatrisation, physiologiquement, le corps humain, parfois en cicatrisant, entraîne des rétractions ou fabrique de petites fibres autour de l'intestin qui peut finir par l'étrangler lui-même. C'est ce qu'on appelle les brides ou adhérences. C'est la cause la plus fréquente. Et vous avez la deuxième cause qui sont ce qu'on appelle les hernies. C'est-à-dire toujours ce petit intestin grêle, il est recouvert, c'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure le drap, le membrane, donc on appelle le péritoine. Oui. Mais en fait, ce drap, ce qu'on n'a pas dit l'autre fois, c'est que par endroits, il y a des petits points de faiblesse, qu'on appelle nous des points normaux de faiblesse. Donc quelquefois, l'intestin qui est à l'intérieur du péritoine, d'une façon ou d'une autre, peut passer par ces trous, c'est-à-dire il ne se perfore pas, mais une partie de cet intestin vient se coincer dans le trou. Et ce qu'on appelle hernie, et cette hernie, s'il est coincé complètement, il ne peut plus sortir, ce qu'on appelle un étranglement des hernies. C'est-à-dire, s'il ne peut plus sortir, ben on bouche l'intestin. Donc on a provoqué une occlusion intestinale. Et ça c'est pour l'intestin grêle. On a de quelques causes qui sont plus rares chez l'enfant. On appelle par exemple un diverticule, c'est-à-dire des petits orifices qui sont à l'extérieur de l'intestin. Imaginez toujours notre tuyau en plastique et on a des petits bourrelets, des petites poches. Ces petites poches parfois peuvent se coincer, voire même occasionner un déroulement de l'intestin qui capote sur lui-même et entraîner une occlusion. Au niveau du gros intestin, il est rare qu'on ait ces hernies-là de gros intestin, mais imaginez qu'il y a une tumeur, une boule, qui petit à petit se développe dans le tuyau qui est gros, petit à petit, tant qu'il y a encore un petit passage de matière, de liquide ou de gaz, on va bien, mais on va sentir parfois des douleurs, hop, ça passe. Mais une fois la boule finit par obstruer complètement le côlon, donc vous imaginez toujours que, même quand on ne mange pas, notre estomac fabrique du liquide. Nous avalons de l'air, il faut bien que ça passe en bas. S'il y a un obstacle, au bout d'un moment, ça va bloquer et on fait occlusion et on va commencer à présenter des douleurs, voire des ballonnements. Voilà. Donc les causes fréquentes, c'est les brides, les adhérences. On a parlé des hernies, on a parlé des diverticules. Hein, qu'on peut trouver
chez l'enfant,
oui. Mais on peut savoir des diverticules du côlon dans ce cas-là. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus fréquent. Et donc des tumeurs. Des cancers, qui peuvent être des tumeurs bénignes ou des tumeurs cancéreuses, tous finiront par bloquer, obstruer l'intestin, et on parle d'occlusion intestinale.
Voilà, docteur, nous avons déjà en ligne des auditeurs. Il y a Richard qui nous appelle de Mandaka et Madame Mamie Coco qui nous appelle de Kinshasa. Nous rappelons pour ceux qui sont intéressés par rapport à ces sujets sur l'occlusion intestinale, quelles sont les causes et comment sont dans cette maladie. Vous pouvez appeler au 081 890 63 94.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Madame Ami Coco nous appelle de Kinshasa. Bonjour madame.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tout le monde. Merci pour la question, c'est Marie Kosso, hein.
Ah bon, c'est Marie Kosso, voilà.
Oui. Madame Maître Okito Laurent.
Bonjour Marie.
Et je voudrais poser au docteur la question. Est-ce que parmi les causes qu'il vient de citer, je n'ai pas entendu citer le purge. Parce qu'il y a ma voisine qui avait présenté des symptômes de l'inclusion intestinale après avoir fait des purges. Alors, il a purgé aujourd'hui, par exemple, 24 heures après, elle a commencé à manifester des coliques abdominales. Alors, est-ce que les lavements peuvent être l'une des causes de l'inflammation intestinale? Merci, docteur.
Merci, Madame Marie, d'avoir appelé de Kinshasa. En Bandaka, nous retrouvons Richard. Bonjour, Richard.
Bonjour, j'ai dit bonjour à notre invité, le docteur.
Bonjour, Richard.
Oui, j'ai une préoccupation, c'est, je l'ai bien suivi, c'est quand même une émission très intéressante. J'aimerais plutôt poser la question au docteur, si tu peux nous expliquer comment est-ce que nous voyons souvent dans des hôpitaux quelqu'un qui souffre de la fièvre typhoïde. À la longue, on dit que non, il a présenté aussi l'occlusion intestinale. Comment est-ce qu'il peut nous expliquer un peu la survenue de cette maladie?
Voilà, merci Richard d'avoir appelé de Mbandaka. Alors, on retrouve notre invité, docteur Antoine Chimpi, gastro-entérologue. Alors, docteur, avant de répondre à madame Marie, si vous voulez d'abord parler des symptômes tout de même hein, de cette maladie, et ça va nous permettre, ça nous permettra de dire si le fait de purger peut aussi amener à cette maladie.
Exactement. Les symptômes, en fait, suivent l'explication de l'installation, l'occlusion que je viens de donner tout à l'heure. Donc, on revient, j'aime bien les explications imagées. Donc les tuyaux en plastique de 15 mètres environ, si on finit par boucher, même avec votre main, hein, faites l'exercice d'un tuyau en plastique, vous bouchez en bas et vous continuez à verser de l'eau en haut, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, l'eau va arriver au niveau de l'obstacle. Au départ, ça va essayer de passer, mais comme les tuyaux sont en plastique, qu'est-ce qui va se passer? Ces tuyaux vont petit à petit se distendre. Donc, il va avoir ce qu'on appelle, nous, un ballonnement, une distension, une augmentation du diamètre ou de la taille de l'intestin. L'eau va continuer à arriver. À un moment, la quantité va être très importante et va commencer à pousser très fort au niveau de l'obstacle. Ça va provoquer des douleurs. Douleurs, distension. Si nous continuons à verser de l'eau, la distension peut même être très importante à un moment, entraîner l'explosion et l'éclatement de ces tuyaux qui continuent à se distendre, comme un ballon qu'on continue à gonfler, à un moment, le ballon
finit
peut
par éclater.
Oui. Voilà, on va faire une perforation et on va verser dans le péritoine et on va donc faire une péritonite. Voilà. Et donc, douleur, distension, mais si nous continuons à verser de l'eau, prenez toujours cette image, et que le tuyau n'éclate pas, l'intestin va continuer à se remplir, et comme ça ne peut pas passer vers le bas, l'organisme va s'organiser pour vider ces liquides. Comme ça ne passe pas vers le bas, ben on va commencer à vomir, parce que les liquides vont être envoyés par le haut. Ça peut commencer à être d'abord des liquides normaux, et à un moment, ça peut même être des matières. C'est ce qu'on appelle des vomissements fécaloïdes. Tout ça parce qu'il y a un obstacle, et que cet obstacle, on ne peut pas le franchir. Donc douleur, vomissement, c'est classique. Et
ce sont des douleurs violentes.
Ah oui, des douleurs qui peuvent, dans certains cas, s'installer progressivement. Par exemple, quand c'est une petite tumeur qui n'est pas encore complète, ça peut être progressive, mais dans la majorité des cas, c'est une douleur brutale parce que le blocage est brutal. C'est une douleur violente, brutale, par crampe, qui augmente d'intensité. On ne peut pas résister longtemps avec cette douleur-là. Au départ, peut-être on va prendre quelque chose, mais on va bien voir qu'on n'arrive plus à boire, qu'on n'arrive plus à manger. Chaque fois, on prend quelque chose, ça évacue vers le haut. Et avec le temps, on va se rendre compte soi-même qu'on ne peut plus péter. On ne peut plus évacuer les gaz vers le bas. parce que c'est obstrué. Et à un moment, on ne peut plus aller aux toilettes, même à faire caca. Ce qu'on appelle arrêt des matières et des gaz. Voilà. Et c'est des choses, la clinique, les symptômes, le patient peut l'expliquer très facilement. Le médecin va évoquer facilement le diagnostic. Nous faisons aussi une éducation aussi de nous, les professionnels. Vous voyez, jusqu'à ce stade, Marcel, nous n'avons pas parlé des radios, nous n'avons pas parlé d'autres choses. Pourtant, nous avons déjà évoqué le diagnostic. Dans beaucoup de cas en médecine, ils font un peu d'attention à ce que le patient décrit, comment ça a commencé, l'examiner, parfois juste regarder le ventre, il est distendu, parfois il est distendu de façon asymétrique.
Et quand c'est distendu, on a des ballonnements.
On a, c'est vraiment un ballon, comme on dit, c'est un ballon, et parfois qui est symétrique, mais quelquefois qui est, vous voyez bien que le côté gauche est distendu, alors que le côté droit ne l'est pas. Donc vous savez bien que l'obstacle est au milieu là. Voilà,
on a déjà une idée sur le signal. Alors, qu'est-ce que vous dites à Madame Marie qui a parlé de sa voisine qui avait l'habitude de se purger et puis bon voilà, ça peut donner lieu à une effusion intestinale.
Exactement. En fait, la question de Marie est double. D'une part, est-ce que les lavements itératifs corrosifs qui peuvent être irritants peuvent provoquer une occlusion? Et l'autre côté, est-ce que le lavement peut être utilisé en cas d'occlusion? Alors, lorsqu'on utilise, je pense que là, il a parlé de quelqu'un qui a fait un lavement et 24 heures après, avait des signes de colique. Je peux très facilement dire que la personne qui a fait le lavement était en occlusion avant de faire son lavement. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, le côlon. J'ai dit que parfois, on peut avoir les matières qui peuvent faire un bouchon au niveau du côlon. Ce bouchon qui peut dépasser la taille, je ne sais pas, d'une balle de tennis, qui va coincer. Et donc, la personne va bien se rendre compte qu'il ne va pas bien la selle. Donc, le réflexe va dire, je vais faire une purge par le bas. Le problème, c'est qu'avec la purge, ça peut soulager la partie basse qui est en dessous de l'obstacle. Mais le fait de pousser quand même avec la purge, en fait, par voie mécanique, ça peut faire passer un peu de liquide de l'autre côté. Donc le liquide qui monte de l'autre côté se retrouve coincé parce que ça ne peut plus repasser par le bas. Donc ça va augmenter sa douleur et c'est ce qui a révélé qu'elle était en occlusion probablement pour une autre cause. Mais il arrive que quand quelqu'un est en occlusion, lié par exemple ce qu'on appelle une occlusion stercorale, bouchon de matière, c'est qui est très fréquent chez la personne âgée, qui est fréquent dans certains cas de traitement des enfants qui ont peut-être quelques problèmes de développement physique, ils ont donc un ralentissement à l'intestin, qu'ils ont des constipations fréquentes au point de faire des gros bouchons qu'on appelle nous des fécalomes, et ces fécalomes qui peuvent boucher le côlon, donc il peut être vu par un médecin, et le médecin s'il le se rend compte c'est un bouchon de matière, il peut tenter un lavement évacuateur, évidemment avec des produits qui ne soient pas irritants, qui ne soient pas corrosifs.
Donc, excusez-moi de vous interrompre, parce que niveau dossier, je comprends bien, lorsqu'on a souvent des ballonnements et des constipations fréquentes, il faut vraiment s'y faire consulter, parce que ça peut-être cacher...
Exactement. Voilà, ça c'est le premier message que vous avez lancé, une constipation chronique récidivante. On va faire des traitements dans son coin, puis on se rend compte que ça ne passe pas, ça ballonne, même si on n'a pas encore de douleur, je pense que c'est bien de prendre l'avis d'un médecin qui vous examinera et puis qui peut-être vous donnera des mesures simples pour améliorer la constipation. Voilà. Le deuxième point, ne prenez pas l'habitude par vous-même de faire des lavements, parfois avec des produits dont vous ne connaissez pas la toxicité et les caractères d'irritabilité. Oui. Ben vous pouvez risquer d'irriter le côlon vous-même et là vous pouvez provoquer ce qu'on appelait tout à l'heure de occlusion par ileus paralytique. Hein. Le simple fait d'irriter le côlon fait qu'au lieu que ça l'aide à s'évider, ça le paralyse encore, il ne veut plus fonctionner, il attend le produit et vous aggravez le problème.
Voilà, alors qu'est-ce que vous dites à Richard qui nous appelait de Mandaka? Il a cherché à savoir si la fièvre typhoïde peut également amener à une occlusion intestinale.
Alors, généralement, les conditions d'infection abdominale, l'infection de l'abdomen, du ventre, peuvent, selon certains degrés, entraîner ce que j'appelais tout à l'heure une paresse de l'intestin. Donc, il peut faire qu'à un moment, les contractions dont nous parlions tout à l'heure de haut en bas, à un moment, ça peut être dû à des médicaments, mais aussi des certaines infections, souvent sévères, vont ralentir, voire arrêter complètement les contractions, les péristaltiques de l'intestin. Ils vont donc provoquer ce qu'on appelle un ileus paralytique lié à l'infection. Donc, c'est une occlusion sans obstacle. Mais c'est une situation peu fréquente, même en cas de fièvre typhoïde. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, un tableau d'occlusion intestinale, associé ou non à une fièvre typhoïde, doit être vu par un médecin, parce que vous avez compris, l'intérêt là, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle mécanique.
Voilà, occlusion intestinale, cause de remède, docteur Antoine Chippy, gastro-entérologue est notre invité. Vous êtes intéressé par le sujet, le numéro d'appel, le 081-890-6394.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peinture ou photo, les expositions à voir. Les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Laissez-vous guider.
Voilà, nous avons en ligne Madame Marie-Jeanne qui nous appelle de Kisangani, notre dame en ligne. Ça nous fait plaisir, on aime bien avoir les dames à l'antenne. Bonjour Madame Marie-Jeanne. Madame Marie-Jeanne, bonjour.
Bonjour Marie-Jeanne.
On vous écoute, madame. Vous êtes déjà en ligne. Allez-y. Quelle est votre question sur cette maladie, l'occlusion intestinale?
Oui, ma préoccupation est ceci. Je voudrais savoir les signes de l'occlusion intestinale. Si quelqu'un souffre de l'occlusion, comment on peut savoir que quelqu'un souffre de l'occlusion intestinale?
Voilà. Merci, Madame Marie-Jeanne, merci d'avoir appelé de Kisangani. Le docteur là venait d'évoquer les signes, mais voilà, il va y revenir pour vous. Merci d'avoir appelé de Kisangani. On retourne ici à Kinshasa pour retrouver Mwangi qui est en ligne. Bonjour Mwangi. On fait signe, il y a un problème avec Mwangi, alors on va aller à Bokungu et là nous avons en ligne Clément. Bonjour Clément.
Bonjour Radio Okapi.
On vous écoute Clément, quelle est votre question sur l'occlusion intestinale?
Oui, je voulais tout simplement, j'ai une petite préoccupation avec un petit complément.
Oui.
Je voulais un peu, je profite, donc ici nous sommes à Bokungu et la population consomme plus la chikwang. Et parmi les causes de l'occlusion intestinale, nous avons le fécalum qui est aussi l'une des causes de l'occlusion intestinale. Et en plus de cela, nous avons aussi des vers intestinaux et qui peuvent donc former un bouchon au niveau de la lumière intestinale et puis provoquer aussi une occlusion intestinale. Mais une petite préoccupation que je profite pour poser le docteur,
oui.
Qui est au studio, c'est-à-dire quoi? Quelle est la conduite à tenir en cas de l'ileus paralytique post-opératoire? C'est un peu ça parce que c'est un peu fréquent ici chez nous, l'ileus paralytique post-opératoire. C'est un peu ça, c'est que je voulais un peu profiter. À la présence du docteur.
Voilà, merci Clément, on sent vraiment que vous êtes du domaine, hein. Merci d'avoir appelé de Bokungu. Voilà, on revient à vous, docteur. Et d'abord, si vous voulez bien rappeler les signes pour Madame Marie-Jeanne qui a appelé de Kisangani.
Je crois que Madame Marie-Jeanne nous a loupé quelques secondes, alors je vais les rappeler. Marie-Jeanne, les signes sont liés à l'obstruction de l'intestin, donc il y a un tuyau de haut en bas. Si vous comprimez avec une main en bas, je vais l'expliquer rapidement, et que vous continuez à verser de l'eau en haut, ben les liquides, à un moment, ne pourra plus passer, va être bloqué. Donc, petit à petit, les tuyaux en haut, l'obstacle va se distendre. C'est ce qu'on appelle une distension ou un ballonnement. Ça va gonfler de plus en plus. Le ventre va gonfler. Puisque l'obstacle est toujours là, que l'eau ne peut plus passer, à un moment, le poids de l'eau va en commencer à entraîner des douleurs au niveau du ventre. Et si vous continuez à verser de l'eau, parce que l'intestin fonctionne en permanence, donc les matières, le liquide, l'air arrivent, si ça ne peut pas passer en bas, ben à un moment, la personne risque de l'évacuer par le haut. Donc, il va faire des vomissements qui peuvent devenir des vomissements fécaloïdes, c'est-à-dire des vomissements de matière par le haut. Ça, c'est le classique. On peut arriver à parfois avoir un peu de fièvre ou avoir d'autres signes de déshydratation, mais c'est ces signes qui sont classiques. Et il vous dira d'ailleurs, mais docteur, depuis X heures ou X jours, je n'arrive plus à péter, je n'arrive plus à aller aux toilettes, il y a ce qu'on appelle arrêt de matière et de gaz. Lorsqu'on a évoqué l'un ou l'autre signe dont on vient de parler, tout professionnel de santé, il va avoir derrière sa tête, il doit se poser la question, est-ce qu'on est en présence d'une occlusion intestinale ou pas. Voilà. Quant à Clément, qui est sans doute de milieu professionnel,
il a parlé du fécalum.
Hein, exactement. Le fécalum, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un bouchon de matière. Hein. Quand on est fréquemment constipé, une constipation qu'on a négligée, ou pas forcément constipation chronique, mais imaginons quelqu'un qui a été immobilisé peu de temps après une opération ou après, il peut faire une constipation ponctuelle qui fait que ce bouchon de matière, petit à petit, si on s'en occupe pas, il peut, parce que les matières continuent à arriver, je rappelle, tous les jours, et donc ça peut finir par faire un gros bouchon. J'ai donné l'exemple qui peut être plus gros qu'une balle de tennis, je disais tout à l'heure, ça peut obstruer le haut du rectum ou les bases du sigmoïde, ou alors carrément dans le bas rectum, on le sent au doigt. Quand on met le doigt, qu'on fait nous toucher rectal, on sent ce fécalum et qui peut être une cause mécanique d'occlusion. Voilà. Donc, c'est effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai eu dans ma carrière plusieurs occlusions, ce qu'on appelle des occlusions parasitaires. On est toujours, parce qu'il a parlé de verre, on est toujours dans le même principe de tout ce qui est contenu dans l'intestin doit rester fluide et passer normalement. Si à un moment ou à un autre, il y a un petit obstacle et que les choses s'accumulent, c'est comme une autoroute, hein, si une première voiture s'arrête, une deuxième, et puis on finit par faire un bouchon, ce bouchon a créé une occlusion de l'autoroute, une occlusion de l'intestin. Et on peut effectivement avoir aussi, dans certains cas, des parasitoses importantes, des oxyures ou des trichocéphales, par exemple, rarement avec rarement le ténia, l'ascaris, ils vont s'agglutiner, faire vraiment un bouchon comme une balle de ping-pong et qui va obstruer plus facilement le petit intestin. Moi, j'en ai eu au niveau de la dernière anse grêle que j'ai vu le patient. Vous arrivez en faisant l'endoscopie, hein, vous arrivez simplement sur le bouchon, vous voyez bien des vers qui bougent, vous disloquez la boule et puis vous avez cet écoulement qui passe, vous avez levé l'occlusion. Donc tout à fait d'accord, c'est des situations au possible. L'iléus paralytique, pour sa dernière question, l'iléus paralytique, comme
j'ai dit, il a parlé de post-opératoire.
Post-opératoire, oui. Il disait fréquente chez eux, peut-être que Clément, faudra voir pourquoi c'est fréquent par chez vous, parce que ça doit pas être fréquent. Voilà. Par contre, c'est une situation possible, effectivement. À chaque fois qu'on a touché, qu'on a opéré le tube digestif, on crée un certain ralentissement du tube digestif. C'est pour ça d'ailleurs, Marcel, quand on a été opéré d'appendicite par le ventre, de la cholécystectomie, les docteurs, ils ont l'habitude de vous dire, on va attendre un ou deux jours le temps que vous ayez des gaz. C'est-à-dire, ils attendent d'être sûrs que votre intestin a repris son fonctionnement normal et que vous pouvez péter. Et le fait d'avoir des gaz, d'aller aux toilettes, est le signe pour dire que le péristaltisme, les vagues de l'intestin fonctionne bien.
Et au cas contraire, hein? Docteur, au cas contraire, si ça n'arrive toujours pas.
Voilà, justement, c'est dans ce cas qu'il évoque, oui, qui est probablement paralytique, c'est-à-dire par un ralentissement ou une paralysie ou une faiblesse, je vais dire, de l'intestin qui dure un peu plus longtemps. On sait très bien, dans ce cas-là, on est convaincu qu'il n'y a pas d'obstacle mécanique, on est d'accord, et c'est que la condition post-opératoire, parce que c'est un produit qu'on peut mettre pour l'anesthésie, peuvent ralentir aussi l'intestin. Le contexte, le fait d'avoir touché les intestins peut le ralentir. L'infection peut le ralentir. On peut donner quelques médicaments qui relancent le péristaltisme, hein, qu'on appelle nous des prokinétiques, comme le collègue, il est dans le domaine, et à l'ancien temps, la prostigmine, c'est quelque chose qui est connu depuis de nombreuses années, qui est là pour relancer le fonctionnement de l'intestin. En général, au bout de un ou deux jours, les gens reprennent, mais lorsque ça traîne plus longtemps, on peut donner ce type de médicaments. Dans le maximum de cas, on arrive à passer. Mais il peut avoir en post-opératoire cela chez des patients qui avaient déjà des causes possibles d'iléus, par exemple les neuroleptiques, les antidépresseurs, et une fois opérés, donc il y a une association de deux ou trois causes qui vont faire qu'on va avoir ce ralentissement qu'on appelle iléus paralytique.
Bon, docteur, si c'est, vous voulez bien revenir, parce que je me rappelle, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens lorsque quelqu'un a été opéré. Bien souvent, on dit, on attend qu'il fasse le gaz, et vous avez dit, c'est pour s'assurer que le péristaltisme intestinal est... Expliquez pourquoi lorsqu'on a ouvert le ventre, il faut, après, attendre qu'on fasse le gaz. C'est un peu d'expliquer
c'est,
ça, docteur.
C'est très important, oui, ce que vous venez de dire. Le ventre, il est dans sa... Enfin, les organes sont dans leur cavité, ils sont couverts du péritoine. Lorsqu'on l'ouvre ou lorsqu'on le touche, c'est comme vous, imaginez que quelqu'un vient vous toucher brusquement derrière, vous vous crispez.
Oui.
Voilà. On vous met une goutte d'eau froide dans le dos, vous vous crispez. Ben, les intestins, c'est pareil. Lorsque vous ouvrez, vous touchez, ça se crispe comme ça. Dans la plupart du cas, l'intestin se relance, le fonctionnement se relance. Mais dans d'autres cas, il se bloque, il peut mettre du temps pour reprendre son fonctionnement. Et une opération, une chirurgie, parce qu'on a été opéré une occlusion ou autre chose, on a donc touché, on a entraîné une petite, terme entre guillemets, crispation de l'intestin. On veut être sûr avant de remanger, parce que si vous mangez alors que l'intestin ne fonctionne pas, on va créer des problèmes. On est un cas d'une occlusion qu'on peut aggraver.
Oui.
Donc on va attendre que vous puissiez avoir des gaz, vous puissiez avoir de l'air, de péter. D'ailleurs, au départ, vous allez dire, je commence à sentir que ça bouge, ou le lendemain, vous avez eu un gaz, le docteur va vous demander, est-ce que vous avez eu au moins une seule fois des gaz? Oui, il vous autorise de manger, parce que ces signes d'avoir des gaz ou d'avoir des selles veulent dire que ces contractions, ces péristaltismes ont repris, ou en tout cas fonctionnent.
Voilà, merci docteur. On poursuit avec d'autres auditeurs. Nous avons Alembe qui nous appelle de Baraka, dans le sud Kivu. Nous avons également Baron Mossono qui est à Kindu et Clément Daye qui est à Kananga. On commence avec Alemba qui est à Baraka, Alembe qui est à Baraka. Alembe, bonjour. Bonjour Alembe.
Oui, bonjour la radio Kapi, bonjour aussi à notre ami.
Bonjour Alembe.
On vous écoute.
Oui, j'ai une préoccupation. Je voulais savoir la période de l'incubation pour cette malade.
Vous voulez savoir?
La période d'incubation.
Ah, d'accord.
La période de l'incubation pour cette malade.
D'accord, c'est bon. Merci Alembe d'avoir appelé de Baraka. Le docteur Antoine Chimpi va vous répondre tout à l'heure. À Kindu, nous avons en ligne Baron. Bonjour Baron.
Oui, bonjour Radio Kapi, bonjour à l'invité.
Bonjour Baron.
On vous écoute?
Oui, je me souviens, pendant mon stage interne à l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, nous avions reçu un cas de l'occlusion post-traumatique. Alors ma question est la suivante. Parmi les causes que vous avez évoquées, veuillez nous expliquer l'apparition de l'occlusion, monsieur l'invité, après un trafic, un accident de trafic routier, par exemple. Merci.
Merci à Baron depuis Kindu et Clément Day, vous êtes à Kananga. Bonjour Clément. Clément, bonjour. Clément n'est plus en ligne, désolé pour Clément. Alors docteur, vous avez suivi la question d'Alembi qui a parlé de cas d'occlusion intestinale après un accident des circulations. Comment cela peut survenir?
Voilà, je pense qu'Alembi m'a demandé sur l'incubation.
Ah, c'est plutôt l'incubation, tout à fait.
Voilà, et Baron parlait de post-traumatique.
Oui.
Et l'incubation, c'est qu'il veut savoir en fait le délai entre le début de la cause et l'installation des symptômes. Quand vous attrapez, vous êtes en contact avec un virus de la grippe, par exemple, quel délai entre le fait d'être en contact avec les virus de la grippe et le fait de faire véritablement la grippe? C'est ce qu'on appelle la période d'incubation. Écoutez, pour l'occlusion intestinale, si on a suivi les explications tout à l'heure, si vous faites un blocage de l'intestin, les symptômes sont quasi immédiats. Ça ne va pas attendre 15 jours, 3 semaines. Ça peut-être attendre quelques heures, le temps que vous remplissiez l'intestin. Mais si vous faites prendre un exemple simple, l'intestin qui capote sur lui-même, c'est ce qu'on appelle un volvulus, vous avez un blocage qui est immédiat, progressif. Vous avez une douleur qui peut s'installer très vite, le gonflement très rapidement. Il n'y a pas de délai en termes de jours. Pour les cancers, par exemple, du côlon, les tumeurs, c'est sûr que dans ce cas-là, vous avez le délai entre l'installation du petit bout de tumeur qu'on appelle le polype, qui va progresser, qui peut prendre 2 mois et 2 mois. Mais dans ce cas-là, vous n'avez aucun symptôme. Les symptômes vont commencer uniquement à partir du moment où le bouchon, le polype ou la tumeur commence à obstruer le côlon. Donc en général, là, c'est rapide. Donc l'incubation, c'est difficile de donner un délai parce que ça dépend de la cause de l'occlusion. Et en général, l'occlusion, la clinique est quand même rapide. Alors, en post-traumatique, nous demandait notre confrère, je pense, Monsieur Baron, en post-traumatique, lorsqu'il y a un choc au niveau du ventre, vous avez plusieurs possibilités. On a parlé tout à l'heure, entre guillemets, de crispation. C'est un choc pour le ventre, pour l'intestin. On peut le bloquer, on peut créer un inélus paralytique. Mais je pense que, en tant que professionnel de santé, en cas de post-traumatique, évidemment, dans notre tête, on va d'abord avoir l'idée, tout ce qui peut être obstacle mécanique. Il y a eu un traumatisme de l'abdomen, donc on peut provoquer, par exemple, ce qu'on appelle une hémorragie ou des hématomes, c'est-à-dire imaginer l'intestin, le tuyau en plastique. Ce tuyau en plastique, il a une paroi. Si vous faites un choc, dans cette paroi, il y a des artères, il y a des veines, il y a de la circulation du sang. Donc les chocs peut faire saigner ses artères et ses veines dans la paroi. Imaginez le mur de la maison, mais dans le mur, on a des vaisseaux. Et donc, ces vaisseaux, ces artères et veines, si ça saigne, mais ça crée un hématome, ça va créer comme une ampoule, un gonflement de la paroi. Si vous avez un gonflement circulaire de la paroi, vous obstruez la paroi de l'intestin uniquement par cet hématome qui est tout autour. Donc, on va faire un authentique tableau d'occlusion intestinale sur hématome de la paroi intestinale. Et en général, on peut les repérer, enfin l'examen clinique, voir l'imagerie, hein, les radios, puisque je parle à un professionnel, on peut le diagnostiquer aisément, et donc le traitement sera bien entendu d'attendre avec les médicaments qui peuvent entraîner la résorption plus rapide de ces hématomes, attendre que les hématomes régressent pour que l'occlusion passe. Lorsqu'on est sûr que c'est un hématome de la paroi, évidemment, dans beaucoup de cas, on va pas opérer. On va prendre le temps que l'hématome se résorbe. Mais puisque c'est un traumatisme, on va aussi s'assurer qu'on n'a pas capoté, qu'on n'a pas volvulé, qu'on n'a pas vrillé un organe sur un autre, ce qui fait un obstacle mécanique. Donc, dans le contexte post-traumatique, on va d'abord rechercher des obstacles, des vrais obstacles. Est-ce qu'il y a un hématome? Est-ce qu'il y a une hémorragie quelque part qui vient en comprimant, obstruer l'intestin? Est-ce qu'il y a un volvulus ou il y a un organe qui se tord sur lui-même, plutôt que de parler après du léus paralytique qui peut se retrouver dans ce cas-là aussi.
Et docteur, par rapport à cette maladie, l'occlusion intestinale, est-ce qu'il y a des personnes à risque?
Alors, les personnes à risque, je disais tout à l'heure, en fait, il y a des facteurs de risque. Quelqu'un qui a déjà été opéré du ventre, j'ai dit tout à l'heure, il a donc une cicatrice abdominale. J'ai expliqué tout à l'heure que le fait d'avoir ouvert le ventre est une situation qui favorise la fabrication des brides ou des adhérences. Et donc, c'est le premier facteur de risque qui peut occasionner ces occlusions. D'ailleurs, juste une parenthèse, Marcel, c'est pour ça que les opérations au niveau du ventre, on privilégie de plus en plus actuellement, mais ce n'est pas encore très développé chez nous au Congo, des opérations sous célioscopie, c'est-à-dire on n'ouvre pas le ventre lorsqu'on doit opérer la vésicule biliaire, l'intestin, le côlon ou au niveau du bas-ventre, gynéco. On va mettre que 2 ou 4 petits trous au niveau du ventre. Comme ça, on va, avec des appareils passés par les orifices, avec par caméra en fait, hein, on contrôle de l'extérieur pour aller enlever juste la maladie et le sortir par les petits trous. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est d'éviter d'aller, entre guillemets, hein, tripoter tous les organes à l'intérieur. Allez, plus on touche, on mélange les organes, plus on va favoriser à la cicatrisation, la fabrication des brides et des adhérences. Hein. Il y a d'autres avantages pour la célioscopie. Comme on n'a pas ouvert grandement le ventre, mais ça va cicatriser plus vite. La personne reste moins longtemps à l'hôpital. Donc, les adhérences, les brides, c'est les causes, les facteurs favorisants. Maintenant, il y a aussi d'autres situations de constipation chronique. On en a parlé tout à l'heure, donc il faut les traiter pour pas éviter qu'on en arrive à des bouchons genre fécalum, des occlusions liées aux matières. On a certains médicaments qu'on doit gérer, le dosage, qui peuvent eux-mêmes ralentir les intestins. Dans certains cas, en maladie de Parkinson, il y a des médicaments qu'on va éviter. Voilà, on va avoir des mesures préventives, des mesures dont on sait déjà que si on ne fait pas attention, vont installer un ralentissement ou le fait d'obstruer le côlon. Et chez l'adulte, ça c'est un combat que j'essaie de mener, qu'on prenne conscience que chez nous, on sait qu'ailleurs, en Europe, à partir des 50 ans et plus, on sait qu'il y a un risque de plus en plus élevé avec l'âge de faire des tumeurs, des cancers du côlon. On a passé de longues années à penser que l'homme noir, l'Africain, ça ne nous concernait pas ou très peu. Mais c'est à quoi j'ai toujours dit que je pense qu'on se trompe et que donc, voilà, depuis que moi je suis là, je vois malheureusement de plus en plus de cancers du côlon, des obstructions liées au cancer du côlon. Voilà, puisque les gens vivent peut-être un peu de plus en plus longtemps, ben on va découvrir ces choses-là. Donc, on aura tendance à partir des 50 ans parfois de voir son docteur pour faire des bilans, des dépistages, voir s'il y a des petits polypes, les enlever, se mettre à l'abri des occlusions.
On va retrouver les derniers auditeurs en ligne. On fait signe que Clément Daï est à nouveau en ligne. Clément Daï, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour aussi à notre invité.
Bonjour Clément, on vous a retrouvé.
Allez-y, quelle est votre question rapidement Clément?
D'accord, je voudrais juste demander à notre invité, parce qu'il y a d'autres gens pour vraiment être content qu'il ait succès, il fallait qu'il mange beaucoup de choses par rapport à arriver même à la constipation. Est-ce qu'il y a-t-il beaucoup de maladies qui peuvent être causées par la constipation? Et puis la deuxième question, je voudrais juste demander à notre invité, est-ce que un enfant, au moins, un enfant d'au moins 5 ans peut être opéré en cas d'une maladie par rapport à ce que les invités tantôt m'ont donné comme critère, soit les conséquences qu'on peut retrouver comme maladie. Merci.
Voilà, merci Clément Daï. Docteur Antoine.
Merci Clément. Si j'ai bien compris votre première question, vous faisiez allusion à l'alimentation et vous vouliez savoir s'il y a d'autres maladies qui peuvent être provoquées par l'occlusion. Alors l'alimentation, c'est qu'on va conseiller souvent, en fait, c'est pas le fait des aliments, mais on va dire conseiller aux gens d'avoir un transit régulier, c'est-à-dire on va régulièrement à la selle. Aller régulièrement à la selle veut dire simplement qu'on peut aller aux toilettes, faire caca, hein, tous les jours, ou tous les deux jours, ou au maximum tous les trois jours, c'est tout simple, c'est la règle de trois, hein. Tous les un, deux ou trois jours, et par jour, on peut à la selle une, deux ou trois fois, donc ce n'est pas la diarrhée, juste pour faire l'exemple inverse, c'est toujours la règle de trois. Si on commence à dépasser trois jours, régulièrement, et à l'issue de trois jours, on a des selles qui deviennent de plus en plus dures, là, on rentre dans la phase qu'on appelle constipation. Et donc, si ce serait bien de s'en occuper, donc on va voir, est-ce qu'on boit toujours beaucoup d'eau? Boire suffisamment d'eau, ça veut dire se boire une bouteille d'eau par jour. Est-ce qu'on mange normalement? Et moi, vous mangez normalement, ça veut dire c'est une alimentation équilibrée. On prend facilement des légumes, on prend facilement des fruits, parce que les légumes et les fruits, ce qu'on appelle nous, favorisent le bol fécal, donc facilite le fait d'aller à la selle. Il n'y a pas d'aliment à l'envers que je vais interdire, on va dire, ne mangez plus ça, parce que ça va provoquer la constipation. C'est plus des règles d'hygiène simples. Voilà. Est-ce que l'occlusion intestinale peut provoquer d'autres maladies? Mais vous avez compris tout à l'heure, hein, Clément, si on bloque le côlon tout à l'heure, on a dit que si à un moment on ne s'en occupe pas, le côlon peut exploser, donc on va provoquer une perforation, et si on a provoqué une perforation, on va provoquer une péritonite. Enfin, si on s'occupe pas de l'occlusion qui est par un obstacle, c'est grave, Clément. Donc on peut pas les laisser, parce qu'on peut en mourir, et on peut en mourir très vite. Marcel commençait l'émission en disant que c'est une urgence, donc c'est aussi bien aux patients qu'aux professionnels de santé, lorsqu'on a suspecté une occlusion intestinale, on ne doit pas traîner. Si on pense qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour faire le diagnostic précis, on réfère le patient à celui qui peut le faire, parce qu'il y a la vie du patient qu'on doit prendre en compte, il est en danger.
Et sa deuxième question, un enfant de 5 ans peut opérer?
Oui, bien sûr, Clément. Même un enfant de 1 jour. C'est-à-dire, on peut faire une occlusion intestinale. J'ai parlé tout à l'heure des diverticules de Meckel qu'on peut avoir chez les enfants. Les enfants, même les nouveau-nés, peuvent faire une occlusion sur ce qu'on appelle, nous, je vais garder le terme simple, de diverticule. Il y a parfois ce qu'on appelle, nous, des invaginations. C'est-à-dire, imaginez les tuyaux et qui rentrent dans lui-même. Il rentre dans lui-même. Le fait de rentrer dans lui-même, il bloque à cet endroit. Et les invaginations sont fréquemment trouvées chez les enfants. Quel que soit l'âge, à partir du moment où on pense qu'il y a un tableau d'occlusion, c'est-à-dire le ventre du bébé, de l'enfant, va gonfler, l'enfant il n'arrive plus à avoir des selles, il s'étourdit, il a mal, il vomit, ça devient fécaloïde, ben il va être opéré.
Voilà, docteur Antoine Chimpi, gastro-entérologue, merci beaucoup d'avoir été de notre pour parler de l'occlusion intestinale. Nous espérons vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup Marcel, et à très bientôt à tous les auditeurs.